pour moi, c'est pas juste moi contre mon agresseur. Pour moi, la plainte, c'est mettre son traumatisme en lumière, mais surtout un peu de manière vulnérable au système judiciaire français. Et en fait, pour l'instant, je me sens pas du tout en sécurité. Vraiment pas du tout en sécurité dans ce système judiciaire. En fait, pour moi, c'est trop violent, en fait. Je trouve que c'est trop violent.
La voix de son voix.
Épisode 4. La résiliente. L'épisode que vous allez écouter est le fruit d'une rencontre très particulière qui s'est faite sur le plateau de France TV pour l'émission Étiquette. Étiquette est une émission disponible sur YouTube et sur le site de France TV qui donne la parole à des personnes partageant tout un point commun, un vécu, une profession ou une passion, afin de les faire échanger sur les préjugés dont ils font face. Le but de l'émission est de vaincre les clichés et les étiquettes dans un climat de bienveillance et d'écoute. J'ai pu rencontrer Tom, Claudine, Sandrine, Jules, Eva et Lara, afin d'échanger sur notre point commun, celui d'avoir été victime d'agressions sexuelles. Quelques mois après le tournage et la diffusion de l'épisode avec Lara, l'envie de se revoir et d'alimenter ce lien naissant nous pousse à nous retrouver pour revenir sur nos vies devant un couscous soigneusement préparé par la daronne.
Je pense que, surtout, c'est l'intitulé de l'émission quand il y a marqué « agression sexuelle ». Directement, en fait, je me suis dit « ah ben, ça fait appel au cliché de on connaît pas son agresseur, tu vois. » Et en fait, je me disais qu'il y allait avoir plusieurs personnes qui allaient témoigner et je voulais représenter l'inceste, en fait. Parce que au début de MeToo, ça m'a aidé, mais ça m'a aidé même avant que ça parle d'inceste. Du coup, on part de loin parce que l'inceste, en fait, c'est le dernier maillon, enfin c'est le dernier maillon de la chaîne, quoi. Avant qu'on en parle, il faut qu'on pousse. On a commencé juste à parler du harcèlement, des agressions verbales, psychologiques et tout ça. Ensuite, on est passé aux agressions sexuelles et enfin, on est arrivé à l'inceste. Et donc, quand j'ai eu l'intitulé et quand j'ai vu la recherche d'étiquette pour ce thème des agressions sexuelles, je me suis dit, ah, j'ai vraiment envie d'anticiper là et de représenter ce qu'est l'inceste. D'un coup, en fait, je me disais que si je participais à visage découvert, justement, à une émission comme ça, que les personnes qui s'intéresseraient à ce que je deviens ou ce que je fais, là, dans le présent, ils pourraient savoir, en fait. C'est pas quelque chose que tu vas raconter à une personne qui te demande comment ça va et qu'est-ce que tu fais dernièrement, quoi de neuf, tu vois. Donc, en fait, je trouvais que pour moi, ça me donnait un peu une sorte de raccourci, quoi. Pour moi, cette révolution-là, un peu des victimes, des personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles ou de viols, c'est pour moi plus que nécessaire, en fait. C'est quelque chose qui va, pour moi, révolutionner tous les aspects de notre société, quoi. Le silence, ça peut créer des séquelles chez les personnes, ça peut créer des vrais traumatismes et ça peut ronger les personnes de l'intérieur. Donc je pense que aujourd'hui la culture du silence, en fait, elle est encore plus prioritaire pour moi à abattre quand on parle par exemple de la culture du viol ou de toutes les luttes là dont on parle. Pour moi, la culture du silence, c'est la plus importante parce qu'elle rassemble tout le monde. En fait, quand on parle, par exemple, de viol, il y a des personnes qui vont pas se sentir concernées, ou quand on parle de féminisme, en fait, il y a plein de choses qui font que des personnes ont peur de ces mots-là. Et je pense que si on parlait juste du silence ou de la parole, simplement, au sein des familles, dans les entreprises ou dans tous les aspects de la société, encore une fois, je pense que ça ouvrirait la communication et ça nous permettrait de nous ajuster les uns aux autres, quoi. Sans aller peut-être dans des choses aussi dures, aussi profondes et aussi compliquées peut-être à gérer.
De toutes les violences envers les enfants sont certainement les plus cachées. La loi du silence y règne en maître. Et c'est particulièrement vrai pour les violences sexuelles, commises dans le cadre de maltraitance, c'est-à-dire les violences sexuelles subies par des enfants alors qu'ils sont à la garde d'une personne de confiance ou dont ils dépendent, comme un parent, un frère ou une sœur plus âgée, un autre membre de la famille, une nourrice, un babysitter, ou par une personne ayant une autorité sur l'enfant. Soumis à cette loi du silence et également à un devoir de loyauté, les enfants victimes de violences sexuelles, trop souvent, n'en parleront jamais, seulement 20, 30, voire plus de 40 ans après.
Ma mère, elle a toujours été avec un homme violent. Et je détestais la manière dont elle était traitée. C'est en tant que petite fille de me dire que mon plus grand rêve, c'était que mes parents divorcent. C'est quelque chose à l'intérieur de moi qui me rongeait de l'intérieur. Parce que c'est énorme que j'entende en fait mon père dire que voilà, il allait nous protéger, il subvenait à nos besoins, il faisait tout pour nous, machin et tout. Et que en fait, dès que j'allais lui poser une question ou dès que j'allais lui demander de l'aide, il était contre moi en fait. Où c'était lui qui décidait, il exerçait son pouvoir, il exerçait sa domination. Et en fait, aujourd'hui, je le vois comme ça parce que je comprends que c'est systémique et que c'est juste la manière de prendre le pouvoir quoi au quotidien, ce comportement. Mais je sentais en fait que c'était pas humain. En fait, c'était pas un comportement humain. Mon frère, donc c'est le premier enfant d'une fratrie de quatre enfants. C'est un garçon. Et il est élevé, en fait, selon la manière, je dirais, patriarcale dont mon père a toujours rêvé, en fait, de créer un petit lui, tu vois, un mini lui. Donc ma mère, en fait, elle n'a pas eu... Elle a pas pu dire quoi que ce soit, elle a pas pu, faire entendre sa voix, faire entendre ses envies, faire entendre ses besoins face à cette éducation-là. Et en fait, mon père, il a vraiment tout fait comme il avait envie de faire. Et je pense que, un enfant, il absorbe ce que les parents vivent déjà dans leur relation. Et je pense aussi que cette domination-là, en fait, lui... je pense que mon frère, il l'a vu comme un exemple. C'est... il faut faire peur aux gens pour obtenir ce qu'on veut. Il faut les manipuler. Il a toujours vu ça, en fait, parce que c'est comme ça que mon père, il nous a toujours éduqués. Sauf que mon frère, en fait, il a jamais remis ça en question. Donc, je pense que c'est cette position-là d'être le premier enfant. Et en plus de ça, de subir les violences conjugales, donc de subir l'oppression, qui a fait qu'il a pris cet exemple de se servir des gens. Et ça a suscité beaucoup de peine, de tristesse, de déception, une colère intérieure qui s'est développée au fil des années, ouais. Ah oui, extrêmement. Ça me révoltait, j'étais dégoûtée, tout le temps. La toute première fois que j'en ai parlé, c'était pas du tout approprié parce que on était dans une soirée, et puis je me suis sentie un peu libre, quoi, et un peu, en état de conscience un peu modifié, quoi. Et il y a eu un moment où j'ai eu un ressenti où vraiment je sentais que j'étais sûre de moi et que je sentais qu'il s'était passé des choses qui n'étaient pas normales dans mon enfance. Et j'en ai parlé à ma sœur jumelle et à son copain, et il y avait d'autres amis à nous. Et je l'ai dit, mais c'était un moment dans lequel on est... Bah voilà quoi, les gens, ils veulent faire la fête et c'est plutôt une ambiance festive. Donc après ça, en fait, j'ai pas trop eu de retour, et vu que je sentais que c'était pas du tout réceptionné d'une manière ou d'une autre, en fait, j'ai fait comme si de rien n'était, parce que eux ont fait comme si de rien n'était. J'ai continué en restant un peu dans le déni, en me disant que peut-être pas, si personne n'est prêt à l'entendre, du coup ça veut dire que peut-être qu'il faut que je le garde un peu plus à l'intérieur de moi. Et J'ai plutôt, du coup, essayé de comprendre, avant d'en reparler, de réessayer d'ouvrir la parole autour de ça, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi, donc j'ai plus fait j'ai plus essayé de me réapproprier d'abord mon corps, donc de faire du sport, du pilates qui m'a beaucoup aidé, du yoga, de la méditation, et vraiment de passer d'abord par le corps, quoi, parce que mentalement, j'y arrivais pas, en fait. L'influence des autres influait sur ma confiance, en fait. Donc, j'avais besoin d'abord de reprendre confiance en mon corps. Il y a un an et demi, j'ai passé un week-end avec ma mère, et elle m'a juste posé la question, à la fin d'un repas, un moment privilégié, ce qui m'avait fait le plus souffrir. Ouais. Elle m'a juste posé cette question, et moi, dans ma tête, bah, à ce moment-là, j'avais aucune autre réponse que de lui expliquer ce que j'avais subi. Quand j'avais 6 ans, et ça a pris beaucoup de temps, parce que j'avais pas prévu de le dire, j'avais jamais prévu de lui dire, mais là, je sentais que j'allais raconter quelque chose qui était, pour le coup, qui avait besoin de sortir de moi, quoi, qui avait besoin de sortir de mon corps. Et du coup, j'ai mis beaucoup d'heures à lui raconter, mais je lui ai dit, et elle m'a cru de suite, quoi. Elle a cru directement ce que je disais. Je trouve que au début, le fait d'aller porter plainte, la plupart du temps, soit notre plainte elle est pas prise, soit elle est classée sans suite, ou soit elle est pas considérée. Donc pour moi, là aussi, il y a un manque de formation, il y a un manque d'éducation énorme. Et la prison, pour moi, c'est la fin de la chaîne qui fait que c'est pas juste moi contre mon agresseur. C'est pour moi la plainte, ça représente plein de choses d'un aspect, d'un point de vue militant, activiste, ou même d'un point de vue de la politique, quoi. Je trouve que, en fait, c'est se mettre son traumatisme en lumière, mais surtout un peu de manière vulnérable au système judiciaire français. Et en fait, pour l'instant, je me sens pas du tout en sécurité. Vraiment pas du tout en sécurité dans ce système judiciaire, et la manière dont on est traité, ou la manière dont je m'imagine que je pourrais être traitée, en fait, pour moi, c'est trop violent, en fait. Je trouve que c'est trop violent. Et là, mon premier objectif, la première chose que j'ai envie de faire pour moi, c'est de me mettre en sécurité, de me protéger, et du coup, je ne comprends pas, à ce jour, le concept d'aller porter plainte, quoi. Donc, après, d'un point de vue des chiffres, de la représentation, de ce qu'un civil doit faire, ouais, pour être aidé, ouais, pour être, voilà, reconnu en tant que victime aussi, je pense que c'est une démarche qui est nécessaire. Mais en fait, pour moi, c'est trop incohérent, là, le fait d'aller porter plainte, et dans l'action, qu'est-ce qui se passe vraiment, je vois pas l'intérêt.
Le viol et la tentative de viol sont les crimes qui bénéficient de la plus grande impunité. Selon le rapport de l'Observation nationale de la délinquance, le viol qui est un crime jugé en cour d'assises, ce sont moins de 10% de plaintes, seulement 3% de poursuites judiciaires et 1% de condamnations. Violer est un pari plus que raisonnable. L'impunité est quasi totale. Porter plainte en espérant que l'agresseur soit condamné est en revanche un pari plus que déraisonnable. La procédure extrêmement éprouvante aboutissant le plus souvent à un non-lieu quand l'affaire n'est pas classée sans suite, avec le risque d'être attaqué en retour pour dénonciation mensongère. Quand un procès a lieu malgré tout, il est alors l'occasion d'un déballage indécent de l'intimité de la victime et de sa mise en cause systématique. Et si malgré tout, les victimes portent plainte, ce n'est certainement pas par désir de vengeance, mais c'est avant tout pour protéger d'autres victimes et d'éviter d'autres viols. C'était
La Voix de son voix,
épisode 4, La Résilience.